Le monde change et pour bien commencer l'année et pour saisir l'ampleur de ces évolutions, quatrième et dernier épisode d'une série sur l'ubérisation de nos vies. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la modernité va-t-elle tuer le père? Les nouvelles formes de parentalité, monoparentalité, homoparentalité ainsi que des pratiques plus modernes, dirons-nous, adoption par des couples homosexuels, GPA, PMA, ont-elles modifié là où elles peuvent avoir lieu en profondeur les structures familiales? Ils actent la fin du patriarcat occidental classique, mais ajoute que le moins de pères ne doit pas valoir disparition du père, rappelant que le noyau de la paternité se trouve dans son enracinement symbolique. Invité Jean-Pierre Winter, déjà auteur de Homo Parenté et de Transmettre ou pas, le psychanalyste revient aujourd'hui avec l'avenir du père chez Albin Michel. Bonjour Jean-Pierre Winter.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le père a-t-il encore un avenir? Pourquoi se poser cette question aujourd'hui, en 2019? Est-ce que la filiation est à ce point bouleversée que sa place centrale jusqu'ici dans nos raisonnements, nos questionnements autour de la famille et la filiation, mais aussi le fait d'être père, est remis en question profondément aujourd'hui?
Ça me paraît relativement évident, dans la mesure où c'est peut-être, en tout cas à ma connaissance, la première fois dans l'histoire que, sur le plan collectif, législatif, symbolique, il est envisagé de d'autoriser des femmes à avoir des enfants sans avoir recours et sans partager la vie, partagée ou pas d'ailleurs, mais enfin sans avoir au moins de référence au père de l'enfant. C'est une grande nouveauté. La position du père de toute éternité, elle a été fragile. C'est pas, de ce point de vue-là, il n'y a rien de bien nouveau. Ça fait partie du deal, je dirais. Hein, depuis toujours, être père est une position menacée, quelquefois menaçante, mais en tout cas menacée par l'ambivalence des rapports entre enfant et père. Mais là, on passe. Il me semble, on passe une étape supérieure. La collectivité prend en charge de dire, non plus par accident, par maladie, par décès, etc., on peut se passer de père parce qu'on le décide, parce que ça sera comme ça.
Trois parties plutôt dans votre essai, Jean-Pierre Winter. Les figures du père, l'effacement du père, sans père. Ça, c'est le titre de la troisième partie. C'est la pente naturelle de nos sociétés.
De notre société occidentale. Dite de façon un peu abusive, judéo-chrétienne, qui serait plutôt latino-chrétienne que judéo-chrétienne. Mais oui, c'est la pente, disons, qui va de la fragilité historique de la position paternelle à la fragilité de la place réservée au père. Et donc à au possible effacement, non pas du père lui-même comme personne, on y reviendra parce que c'est compliqué, père ou papa, j'imagine, non pas seulement donc de la personne même physique du père, mais de la place qui lui est dévolue au regard de l'organisation du psychisme de l'enfant et de l'équilibre de la famille, mais qui n'est pas tellement mon souci parce que comme psychanalyste, pour moi la famille c'est pas un concept, hein, c'est un état de fait, il y a ou il y a pas de famille. Mais ce qui m'intéresse le plus dans l'affaire, ce sont les questions liées à la filiation, bien plus qu'aux formes même de la famille.
À propos de cette filiation et surtout de cette figure du père, puisque c'est le thème de cet essai, l'avenir du père, vous le dites, elle a toujours été fragile, cette place occupée, hein, de Proust en passant par Balzac jusqu'au roi Lear ou à l'Oedipe vieillissant. Vous le montrez, la littérature a montré des pères humiliés, fragilisés, là où on les imaginait, en tout cas dans la mythologie, dans nos mythologies littéraires et collectives. Toute puissante, cette figure du père, de la littérature à la vraie vie, cette toute puissance du père n'a pas toujours été la règle. Le syndrome du père transparent ou l'absence du père, je vous propose de remonter en 1972 à travers cette archivina.
Est-ce que vous consacrez suffisamment de temps à vos enfants?
Non. Franchement, vu les horaires que j'ai...
Baisse un peu le son,
on prend 7h30, 8h le soir, c'est le moment de passer à table et après un peu de détente, mais bien souvent trop tard pour qu'on puisse discuter ensemble et ils vont au lit puisqu'ils sont encore jeunes.
Et on doit aller à l'école.
Et on doit aller à l'école bientôt.
Mais vous laissez alors la responsabilité d'éducation à votre femme?
Pour les 4/5 du temps, oui.
Est-ce que vous pensez que ça ne risque pas de nuire à vos enfants de ne voir pas l'éducation, le rôle du père?
Tu permets que je vais coucher les enfants quand même?
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que vos enfants risquent de souffrir de vos absences?
Ben, plus ou moins, et j'aurais voulu quand même pouvoir rester plus avec eux, les suivre. Mais c'est une chose quand même assez difficile parce que j'ai une formation primaire alors que maintenant ils sont dans le secondaire pour eux. En plus de ça, il y a les mathématiques modernes, la nouvelle vague de l'enseignement actuel que je ne peux pas suivre puisque je n'ai pas le temps de me recycler dans ces choses-là. Je suis trop pris par le travail.
On peut pas savoir. Mais quand même en vacances, tu es trop crevé pour jouer au ballon, des trucs comme ça alors.
Il y a l'âge qui joue aussi.
Ben oui, mais même quand... Il n'y a pas que le plan scolaire, en vacances, enfin, ou le dimanche ou le week-end, même le dimanche après-midi, vous êtes fatigué, vous ne bougez pas, alors...
1972, Jean-Pierre Winter, quelle différence avec aujourd'hui?
Ben, ça dépend où on se place, géographiquement et même socialement. Mais enfin, disons que dans... La représentation qu'on se fait aujourd'hui de ce que devrait être un père, celui qu'on vient d'entendre serait voué aux gémonies. Un père aujourd'hui, alors je vais insister sur ce point, je dirais un papa aujourd'hui plus qu'un père, un papa aujourd'hui se doit de consacrer du temps à l'éducation de ses enfants, à veiller à leur évolution, à partager les tâches ménagères avec la mère des enfants, les tâches éducatives. Voilà, il doit être un bon papa. Pour l'homme qu'on vient d'entendre, qui représente assez bien effectivement ce qu'on pouvait encore entendre dans les années 70, pour cet homme-là, un bon papa, c'est celui qui prend en charge l'économie, à tous les sens du mot, de la famille, pour permettre à la maman de s'occuper des enfants sur tous les autres plans. Moyennant quoi, ce qui est commun, c'est que de toute façon, il fait l'objet d'une plainte. Il est pas assez là, il est trop fatigué, il joue pas avec ses enfants. Aujourd'hui, il y aurait d'autres plaintes, mais je l'entends dans mon cabinet jour après jour. De toute façon, ce qui est le point commun, le trait distinctif, c'est qu'il est l'objet d'une plainte, d'être trop là ou pas assez là, trop autoritaire ou pas suffisamment autoritaire. Et ça, ça n'a pas changé.
Mais ça, on pourrait dire pareil des mères. C'est à peu près le même type de reproches qui peuvent leur
être faits. Oui, d'une manière générale, les parents sont souvent l'objet de reproches. Mais disons que ce qui pourrait, avec beaucoup d'hésitation, caractériser la fonction paternelle, c'est qu'elle est marquée du sceau à la fois de l'impuissance, de l'irresponsabilité et paradoxalement, de l'autorité et de l'excès d'autorité.
C'est un des paradoxes aujourd'hui, alors que de plus en plus de pères, vous dites papa, veulent occuper des fonctions plus actives dans la famille. C'est pas simplement ce qu'on attend d'eux, il y a aussi ce désir des pères d'être plus centraux dans l'éducation des enfants, dans le quotidien de la famille. La loi pourrait acter leur disparition, ou en tout cas leur inutilité, ne remettrait pas au cœur de la famille le père comme un maillon central. Le père dit n'étant plus celui d'aujourd'hui, sur quels fondements biologiques, sociaux, l'est-on véritablement pour vous, père, aujourd'hui?
Ça a été une des grandes difficultés que j'ai dû affronter pour écrire ce livre en collaboration avec une collègue qui s'appelle Daniel Lévy. C'est que il est très difficile de dire en quoi consiste ce que je pourrais appeler l'être du père. Ce que l'expérience analytique m'a montré, c'est que je ne saurais pas dire avec précision, définir de façon indiscutable ce que c'est qu'un père, mais ce dont je peux rendre compte, ce dont je peux parler, c'est de ce que ça produit comme effet, le fait de ne pas en avoir eu un. Donc la définition, elle viendrait en creux. La différence là qui s'est imposée progressivement à moi, c'est la différence entre le papa, qui est celui qui, justement, de nos jours, réclame d'avoir plus de temps, plus de considération pour ce qui est de l'éducation, l'amour donné à ses enfants, etc., et le père. Parce que le papa, de façon, disons, je dirais, cohérente avec l'évolution de la société, le papa, c'est quelqu'un qui partage les tâches avec la maman. C'est celui qui donne de l'affection. Mais le père, c'est bien autre chose.
Pour comprendre cette autre chose, vous retournez quand même, et c'est votre discipline première, par la psychanalyse. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent les psychanalystes à ce sujet, et surtout si on en revient au texte ou au père fondateur, à Freud et à Lacan, vous repassez par l'un comme par l'autre, à la fois sur cette thématique de la mort du père, il faut tuer le père, et aussi par Oedipe. Qu'est-ce qu'on apprend de qu'est-ce qui fait le père jusqu'ici, ou qu'est-ce qui faisait le père?
Dans la mesure où le père ne se soutient pas de ce qu'on pourrait appeler l'expérience physiologique sensitive de la relation entre la mère et l'enfant, qui a porté l'enfant dans son ventre pendant 9 mois, qui quelquefois elle a allaité après encore pendant plusieurs mois, et qui est donc dans un corps à corps qui dure un temps assez long, dans la mesure où le père, lui, n'a pas eu cette expérience, il doit être inventé. Il est, on pourrait dire, abstrait. Et le papa est celui qui donne chair à cette abstraction, mais l'abstraction est là d'abord, et elle est essentiellement dans le langage. C'est la langue qui produit le papa. Certes, il faut qu'il fasse don d'un petit peu de son corps par l'intermédiaire du spermatozoïde, mais ça n'entre pas en considération dans la sensitivité du rapport entre le père et l'enfant. Et ce père qui est inventé dans la langue, il est évidemment, par exemple, différent d'une langue à l'autre, même s'il y a des mythes communs sur l'origine disons de la paternité, pour faire vite, même s'il y a des mythes communs, ce qui est patent, ce qui s'entend régulièrement quand on écoute les gens au long cours, c'est que le père, c'est d'abord quelqu'un que on se construit. Alors évidemment, on se construit pas sans matériaux, donc il y a, parmi les matériaux, il y a la langue parlée, il y a ce que dit la mère, la langue maternelle, il y a la présence ou pas d'un père à la maison, mais il y a une instance, alors qu'on dira symbolique, si vous voulez, qui détermine une certaine configuration, une certaine forme donnée à ce que sera la paternité. Et donc chacun est amené à se construire, à s'inventer un père, et à mesurer ce qu'il a inventé au regard de ce qu'il rencontre dans la réalité. Et il s'aperçoit que, alors, dans la plupart du temps, c'est décevant, pas toujours, mais c'est souvent décevant, et que, en tout cas, ça ne coïncide pas.
Cas pratique, Jean-Pierre Winter, avec un extrait du film de Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté.
T'as connu mon père, toi? Il n'était pas du tout gâteux, plutôt le genre hyperactif, autoritaire et tout. Mais à un moment donné, il s'est mis à me faire chier, tu peux pas savoir. Globalement, il m'a toujours fait chier, hein. Mais là, c'est devenu autre chose, il m'a fait chier d'une autre façon. Et avant, il me demandait jamais mon avis, ou alors comme ça, pour me dire qu'il me l'avait demandé. Il me demandait de faire les choses, et puis moi, je les faisais. Et puis à un moment donné, il s'est mis à me demander mon avis, tu vois. Ce que je pensais de ci, comment je trouvais ça, ce que je ferais à sa place, etc. Puis des fois, il me demandait mon avis sur ses histoires de cul avec ses caissières, ses secrétaires. Je détestais ça, je trouvais ça dégueulasse. Lui, il continuait comme si j'étais devenu son pote, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Puis à un moment donné, j'ai compris ce qui se passait, tu vois. C'était plus mon père que j'avais en face de moi. C'est comme si j'avais un môme, qu'il était devenu mon fils, que j'étais responsable de lui, que c'était moi le père, tu vois. En fait, c'est ça, tu vois. On fait pas gaffe, et puis un jour, on se réveille, et puis les choses vont changer de place. Passe-moi du feu. Passe-moi du feu. Ce qui est emmerdant dans ce genre de truc, c'est que tu peux rien y faire. Hein. Tu peux gueuler, filer des coups de pompe dans les murs, ça sert à rien. Rien du tout. En fait, ça veut juste dire que le temps a passé, que ton père a pris un coup de Dieu, et que t'as cessé d'être immortel. Tu crois en Dieu, toi?
Non.
Bah, normalement, c'est vers ce moment-là qu'on commence à y croire, quand on n'y croyait pas.
Bah, Dieu est mort, hein, annonçait Nietzsche à la fin du 19e, et vous le rappelez, on aime bien que les choses soient à leur place, et on entend quand même dans cet échange, ou ce presque monologue, que les repères ont bougé. Alors si on est père dans le regard de l'enfant, quel père voyez-vous, quelle figure du père voyez-vous se dessiner ici, Jean-Pierre Winter?
Ben, un père qui... J'emploie l'expression à un moment donné que j'emprunte à Lacan, un père humilié, c'est-à-dire un père qui n'est pas celui qu'on attend. Et celui qu'on attend, en fait, c'est celui qu'on a idéalisé quand on était enfant. Celui dont on a imaginé, étant enfant, qu'il avait des pouvoirs extraordinaires, qu'il pouvait nous protéger, nous consoler, nous aimer, nous porter. Et puis, ben, il y a toujours un moment où on s'aperçoit que c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, d'abord parce qu'il a ses propres préoccupations, ses propres contradictions. Et puis surtout, c'est pas ça parce que il a eu lui-même un père. Lequel a eu aussi un père. Et que le papa auquel on s'affronte dans la réalité, il est en quelque sorte le réceptacle de tous ces pères qui, génération après génération, ont abouti à faire que cet homme soit le père qu'il est. Alors, après, il y a ceux qui, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ceux qui pensent qu'ils savent comment il faut être pour être un père. Alors ceux-là, ce sont les plus dangereux. Et puis, il y a ceux qui se laissent éduquer par leur enfant. Et comme on vient de l'entendre, à un moment donné, le père peut devenir un fils. Et puis, il y a ceux qui se laissent porter, tout simplement, ou qui s'en vont. Aussi, ça existe, même beaucoup. Mais ces pères, tous ces pères, aussi différents soient-ils, ils ne sont pères que pour autant que... et ça n'apparaît pas dans l'extrait qu'on vient d'entendre, que pour autant qu'ils sont reconnus tels dans la parole de la mère. La parole, elle n'a pas besoin d'être intentionnelle, explicite, il y a toutes sortes de signes qui désignent à l'enfant qui est son père pour sa mère. Mais c'est là que ça se passe. Ensuite, avec ça, l'enfant fait ce qu'il peut, c'est-à-dire imagine comme il peut, fantasme comme il peut, et se confronte, est confronté de fait à la parole paternelle, l'égoïsme paternel, le narcissisme. Vous savez, Diderot disait que dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, que le modèle même de l'amour de soi, ce qu'on appellerait aujourd'hui le narcissisme, c'est la relation père-fils. Hein? Donc il y a à ce moment-là comme une confrontation entre le narcissisme de l'enfant, et garçon ou fille d'ailleurs, et le narcissisme du père, et c'est très tendu, la relation est très tendue. Juste une chose, vous parliez tout à l'heure en faisant référence à mes grands anciens que sont Freud et Lacan, et j'ajouterais Dolto, au fait que la psychanalyse dirait qu'il faut tuer le père. Mais justement pas. Ce que dit la psychanalyse depuis Freud, c'est que le père est mort de toute éternité. Et que après, il va falloir faire avec ce père qui est mort de toute éternité, il va falloir faire en sorte de négocier la vie qu'on a, Et ça se fera sur un mode ambivalent, mais il ne s'agit pas de pousser qui que ce soit à tuer son père, sinon symboliquement. Mais c'est déjà fait puisque c'est une abstraction.
Oui, vous le rappelez, dans la psychanalyse, le père n'apparaît que dans le psychisme que mort. Hein. C'est une figure du père qui meurt. Le dit meurtre du père est une opération symbolique, c'est-à-dire qu'elle porte sur une représentation. Ce qu'il s'agit de tuer, c'est une figure du père, un père qu'on imaginait tout puissant ou qui aurait dû l'être. Alors qu'est-ce qu'un bon père ? Les juristes se sont essayés à une définition, en tout cas à une inscription dans le droit de cette expression. L'Assemblée nationale récemment a fait disparaître l'expression « bon père de famille » du dictionnaire juridique consacré par le Code civil en 1804, qui actait une gestion raisonnable, prudente, sage de la cellule familiale. Aux antipodes de cette image traditionnelle du père qui s'impose par son autorité, il y a aussi Guido, le père de La vie est belle de Roberto Benigni, qui avait fait scandale il y a 20 ans lors de sa sortie, ce film, déporté avec son fils. On se souvient qu'il tente de préserver son fils de l'horreur des camps en lui faisant croire à un jeu. Ce film, vous y revenez longuement sur cette figure du père. Je vous propose d'abord un extrait.
Ah, les voilà, ça y est, c'est le retour. Là, on sera un petit peu serré, mais ça ira bien.
Je serai.
C'est pas beau et ça pue ici. Je veux pas rester, je veux aller avec maman.
Oui, d'accord, on ira la trouver.
J'ai faim.
On va manger bientôt.
Et puis ils sont méchants, ils font que crier les gens.
Mais ils crient parce que le premier prix c'est un temps, tu comprends? Alors ça fait envie à tout le monde, alors ils sont obligés d'être durs.
Maman, quand est-ce que je pourrai la voir?
Et quand on aura fini le jeu, hein?
Et quand il finit le jeu?
On a besoin de faire 1000 points, voilà. Le premier qui arrive à faire 1000 points gagne un vrai jardin.
Je te crois pas. Quand est-ce que j'aurai mes tartines?
Tu veux des tartines? Je demande, hein. Il suffit de demander. Tiens, regarde ici, c'est tous des amis ici. Tiens, regarde, lui là, c'est...
Bartoloméo.
Bartoloméo, ben dis donc, excuse-nous, il est déjà passé, celui qui donne le pain et la marmelade, hein? Ah, c'est bête, ça, on est arrivé trop tard pour le goûter, ça. C'est idiot, hein. Il repasse un peu une deuxième fois, non, pour ceux qui ont... hein, c'est ça, ben oui, il repasse.
Attends, ouais.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Il cherche quelqu'un pour traduire. Il va expliquer les règles du camp. Tu parles allemand?
Non.
L'équipe se moque de moi parce que je dis que le film a fait scandale, donc il a été incompris ou mal compris par certains au moment de sa sortie, mais reconnu par ses pairs puisqu'il a été oscarisé. Un père bouffon, parce que vous, c'est à la figure du père que vous vous intéressez à travers ce film, La vie est belle. Là, ici, la traditionnelle relation père-fils telle qu'on l'attend est malmenée pour vous, Jean-Pierre Winter?
Non, et... Ce qui m'a passionné dans mon travail de réflexion sur ce film, c'est qu'il en dit beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer. À savoir que s'il a fait dresser les cheveux sur la tête d'un certain nombre de personnes à sa sortie, c'est parce que il y avait quand même malentendu. On y a vu une espèce de bouffonnerie qui raconterait sur un mode fictionnel indécent l'histoire d'un père qui parviendrait à protéger son enfant dans un camp où censément il n'y aurait pas eu d'enfant, alors qu'il y en a eu, de l'horreur nazie. Bon. En fait, c'est assez intéressant. Parce que c'est pas ça du tout qui se passe dans le film. Et on l'apprend à la fin du film. Cette histoire, c'est l'histoire d'un fils qui se raconte et qui nous raconte par la même occasion le père qu'il aurait voulu avoir. Et ce qui est très bien fait dans ce film, c'est qu'on voit bien que le père qu'il se construit pour survivre dans un lieu d'horreur, il le construit à partir, et c'est pour ça que le film est fait en deux parties, il le construit à partir de ce qu'il a vécu avec son père, et qui était déjà une part d'imaginaire, dans sa prime enfance, avant d'être dans le camp. Et donc on voit là la construction. Freud avait cette expression, il disait le père est le résultat d'un processus imaginaire, un processus cogitatif, disait-il. Plus exactement. Eh bien là, on le voit à l'œuvre, puisque le film est tellement bien fait que la plupart des scènes de la deuxième partie, la partie qui a lieu dans le camp, répondent presque point par point à la première partie. Et donc on voit bien un processus de pensée qui aboutit à la création d'un père qui n'est, pour le coup, qu'un père mort, hein, puisque le film s'arrête après la mort du père. Et ça, c'est un sujet de... Bon, on peut rentrer dans le détail, on va pas le faire maintenant, mais c'est un sujet de réflexion tout à fait important.
Et qui vous a marqué, vous aussi, Jean-Pierre Winter, vous l'avez déjà raconté, fils de juif hongrois, fils d'un survivant de la Shoah, l'influence et le poids du silence de votre père sur votre propre construction, en en déduisant aussi que nous ne sommes pas tous conditionnés, pas tous déterminés. Il y a une part d'héritage que l'on peut accepter ou refuser, qu'il est important de laisser aussi ce qu'on appelle le libre arbitre s'exprimer dans nos destinées. Alors, quels pourraient être les effets de ces bouleversements sur les générations à venir, si on n'y prend pas garde? Quels sont les symptômes de ce manque ou de ce mal de père? Être rattrapé par ses origines, c'est le cas d'Émilie, née il y a 36 ans d'une insémination artificielle, élevée par deux mères. Elle témoignait l'an passé au micro des Pieds sur Terre.
Donc ça a été simple longtemps, et puis c'est devenu compliqué quand j'ai commencé vraiment à me poser les questions. En tout cas, j'étais aimée. Mon histoire, elle était un peu secrète, mais que c'était quand même un peu la classe au cul, quoi, comme histoire, quand même. Et tout ça allait très bien, comme ça. En fait, pendant longtemps, je pensais que j'avais tellement de mamans que il n'y avait aucune raison qu'un père manque, en fait. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, j'aurais aimé qu'un homme, le géniteur, du coup, peut-être lui, qu'est-ce que j'aurais aimé que cet homme, un jour, me prenne dans mes bras et me dise « je t'aime ».
Jean-Pierre Winter, là, Winter, on voit en quoi la figure paternelle, même presque non identifiée, en tout cas cette question des origines, remonte et reste un élément structurant pour vous dans la construction individuelle.
Oui, ben d'abord, ce qu'on peut observer, c'est quelque chose qui va à l'encontre, ou qui permet en tout cas de largement relativiser toutes les enquêtes qui sont faites sur la situation des enfants sans père. Un témoignage comme celui-là, il est vraiment important, parce qu'il montre qu'on peut passer une grande partie de sa vie en ignorant de quoi on manque, en ignorant ce qui nous fragilise le plus. Et puis, le hasard de la vie fait qu'un jour on s'aperçoit, le hasard de la vie ou la répétition ou un rêve quelquefois ou une rencontre fait que tout d'un coup vous vous apercevez que ben vous êtes vous boitez depuis l'origine parce que ben on vous a amputé d'une partie importante de ce qui vous permet de vous construire. Vous le savez pas toujours. Vous pouvez le découvrir, par exemple, au moment où vous-même vous allez décider d'avoir des enfants, au moment où adolescent, donc plutôt, vous comparez aux autres adolescents dans votre entourage, au moment où survient un rêve qui vous indique une place vide. Donc les enquêtes qui prétendent dire que ben après tout avoir un père ou pas un père c'est pas tellement ça qui est le plus important, l'important c'est d'être aimé et bien entouré, ignorent totalement ce qui se passe sur le temps long. Et comme psychanalyste, je travaille pas sur l'immédiateté du jeu des questions-réponses, mais sur le temps long, c'est-à-dire sur ce que les gens, à force de travail sur leur histoire, sur leur fantasme, sur leur psychisme, finissent par découvrir d'eux-mêmes, alors que pour des raisons vitales évidentes, ils se l'étaient masqué pendant très longtemps.
Vous restez-vous, Jean-Pierre Winter, radicalement opposé à la GPA, aux mères porteuses? Vous vous en êtes expliqué parce que marchandisation, mais aussi parce que sentiment d'abandon qui peut apparaître aussi dans l'adoption, d'où mon lapsus. Devant vous, j'ai un peu honte, mais est-ce que sur cette question-là, vous êtes prêt à évoluer?
Ben, si évoluer, ça veut dire aller dans le sens de la régression, non, pas vraiment.
Vous comprenez pas l'avis du comité d'éthique du 25 septembre dernier, qui serait prêt, lui, à ouvrir la PMA pour toutes?
Je comprends mal cet avis, d'autant que j'ai été auditionné par la dite commission, que dans le rapport qui a été donné au gouvernement, il est fait état de nombreuses oppositions au sein du comité d'éthique, qui n'étaient pas d'accord avec les arguments qui étaient utilisés. Un comité, c'est une chose, et puis le travail que je fais depuis bientôt 40 ans auprès de gens qui soit n'ont pas de père, soit n'ont pas voulu reconnaître qu'ils en avaient un, m'a appris des choses que le comité d'éthique n'a pas forcément utilisé comme matériau. Bon, c'est une chose, le comité d'éthique, c'est pas non plus la Sainte Bible, hein. C'est un avis qu'il a donné à un moment donné. Beaucoup de gens pensent que cet avis est un peu rapide.
Donc non à la GPA et plutôt non à l'ouverture de la PMA pour toutes.
C'est pas non à l'ouverture à la PMA, c'est non à la légalisation d'une situation qui ferait qu'il n'y aura pas de père pour un enfant a priori.
Jean-Pierre Winter, les progrès médicaux vont peut-être aussi bénéficier aux hommes, aux pères, puisqu'on parle d'eux et de la place qu'ils occuperont plus tard. Ils ne seront pas forcément les grands perdants. À l'horizon 2050 dans le monde, peut-être l'utérus artificiel. Et si l'utérus artificiel peut soulager les femmes du fardeau de la grossesse, il peut aussi peut-être permettre aux hommes d'avoir des enfants sans passer par le ventre des femmes. C'est en tout cas ce qu'évoquait l'anthropologue Françoise Héritier.
L'instrument de l'utérus artificiel n'est pas, a priori, dédié uniquement aux femmes pour leur permettre d'avoir des enfants. Imaginez qu'il puisse être revendiqué au nom du principe d'égalité par des hommes pour leur permettre d'avoir des enfants, si je puis dire, tout seul.
Elle est contente ?
Ben ça, j'en sais rien.
Tu crois qu'elle est à l'envers ou à l'envers ?
Ben, je pense qu'elle a la tête en bas. Hein.
C'est paradoxalement le triomphe, si je puis dire, du masculin sur le féminin, parce que en même temps que les femmes gagnent en égalité sur un certain nombre de plans, elles perdent sur le plan fondamental qui était celui qui existe depuis l'origine de la sexuation, à savoir l'incertitude sur la paternité et l'incertitude sur la maternité.
Peut-être un avenir pour le père avec l'utérus artificiel.
S'il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec Françoise Héritier, c'est sur le fait que la différence des sexes passe par la capacité d'enfantement pour les femmes et pour l'incapacité pour les hommes. Après, on verra bien. On n'en est pas là. Et en tout cas, moi, je ne serai pas là pour le voir. Vous êtes beaucoup plus jeune, donc vous assisterez peut-être au triomphe de la maternité masculine. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle dit à la fin est totalement modifié aujourd'hui. C'est-à-dire que le père peut ne pas être incertain. Le père, en tout cas, en tant que géniteur, on peut savoir avec certitude qui il est, ce qui ne fait pas de lui un père, mais en tout cas un géniteur. Par contre, la mère est complètement explosée. Le concept de mère est complètement explosé entre la mère d'intention, la mère qui donne ses ovocytes, la mère porteuse, etc. Au point que ce qui est une des grandes révolutions, je pense, anthropologiques d'aujourd'hui, c'est que des enfants vont être amenés à se demander, à l'envers de ce qui se passait dans les générations précédentes, mais qui est donc ma mère ? Celle qui m'a mis au monde, celle qui a eu l'intention que je vienne au monde, ou celle qui a donné ses ovocytes ?
Voilà, ça sera le prochain livre, en fait. Après l'avenir peut-être. Du père, l'avenir de la mère. Et il est peut-être pas plus heureux si c'est pas tant d'un père dont on a besoin, mais d'une présence de père. On peut s'imaginer qu'à l'avenir, on va essayer d'inventer toutes sortes de substituts pour y remédier. En tout cas, ça vous paraît pas non plausible. Absolument. C'est un scénario possible. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Pierre Winter, d'avoir été avec nous. L'avenir du père, votre nouvel essai réflexion sur cette place à réinventer pour les pères dans nos sociétés, dans nos familles, vient de paraître chez Albin Michel. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Chouchane Djergaillan, à Auriane Delacroix et à Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées. À la réalisation aujourd'hui, c'était Alexandra Candy-Longuet.